Meilleur, meilleur.
Putain, c'est un nom de ouf, non ?
Radio. Ouais, 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 salut tout le monde, c'est Coelho, bienvenue sur Meilleur Radio. On est là pour parler de tout et de rien, mais du mieux qu'on peut. Forcément, je suis pas tout seul, je suis accompagné de méga sur Loco et Othello. Ça va ou quoi, les mecs ?
Ouais, ça dit quoi ?
Ouais, ouais.
Ça dit quoi ? Ça dit quoi ? On est
ça
là.
Va, tranquille, hein. Tranquille. Ça fait toujours plaisir d'être là.
Toujours.
Surtout qu'aujourd'hui, on va un peu tenter des choses.
On va expérimenter.
Forcément, quand on crée un projet, on commence quelque chose, comme un podcast, par exemple, bah, on est obligé d'apprendre un peu de ce qu'on fait et d'essayer de s'améliorer. Donc, on va tenter. Il y aura une chronique de Loco aujourd'hui, une chronique d'Othello.
Alors, sur les chroniques. On devient chroniqueur. Qu'est-ce que c'est ?
Putain, ça se professionnalise ou quoi, les gars, là ? Ça régale. Et aujourd'hui, on va parler d'un film français. En tout cas, on va attaquer par ça. Et un film français, mais qui dénote, on va dire, forcément par son réalisateur. Le film, c'est Yannick. C'est un film qui est sorti, du coup, le 2 août 2023,
tout
réalisé par Quentin Dupieux, avec en acteur principal Raphaël Quenard. Il y a Pio Marmaille et Blanche Gardin aussi. Et un autre boug qui est dans la pièce de théâtre du film, dont j'ai pas du tout le nom.
Totalement oublié aussi.
Je suis désolé pour ce gars,
qui est
en plus totalement à la hauteur de tous les autres.
Et qui reflète son rôle aussi un peu.
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il s'efface aussi. Mais en tout cas, c'est vraiment un film spécial. Et quand on connaît le réalisateur, c'est un film qui est pourtant moins spécial que toute sa filmographie, qui est beaucoup plus simple, avec un message presque plus simple, une forme plus simple, un fond plus simple. Mais tout aussi marquant. Quentin Dupieux, pour ceux qui ne savent pas, c'est un fils de garagiste, musicien qui est plus connu, en tout cas avant c'était ça, Mister Oiseau, c'est ça ?
C'est ça, Mister Oiseau, électro à fond.
Voilà. C'est comme ça que j'apprends que c'est le même
boucle. Ah ouais, ouais. Tu l'apprends aujourd'hui ?
Ouais, je savais pas.
Okay.
Voilà.
J'espère que ça sera pareil pour vous qui écoutez.
Ouais, carrément. Et maintenant, j'ai l'impression qu'on le connaît plus en tant que Quentin Dupieux, réalisateur de films.
Il charbonne beaucoup plus en tant que Quentin Dupieux en termes de quantité de sorties quand Monsieur Oiseau depuis ces 5-10 dernières années, je pense.
Oui, parce que je savais même pas que. Enfin, je pensais que Monsieur Oiseau, il avait juste disparu, en fait. Alors qu'en fait, c'est
non,
juste
qu'il se tue au cinéma, en fait. Okay. il doit sortir 2-3 films par an. Quoi,
là, il a 2 films par an. Il en a sorti 2 cette année sûre.
Ouais, ouais.
Et au moins 1 l'année dernière, au moins.
Mais c'est des petits films, en plus, c'est des films petit budget, pas de grosse équipe, ça tourne rapidement, mais maintenant, il y a des castings de fou, en fait.
C'est
parce que je pense que les acteurs. Ils ont envie d'y aller parce que personne ne fait ça en France. Et eux, en tant qu'acteurs, bah, passionnés d'acting et de cinéma, je pense qu'ils ont envie de tester des choses et de s'amuser avec lui.
Il y a un peu un côté où Quentin Dupieux permet aux gros acteurs, parce qu'on a du Jean Dujardin,
Gilles Lellouche.
Etc. C'est quand même un peu un terrain pour eux de s'amuser et de faire un truc qui change de drame ou de comédie. C'est un entre-deux, en fait, Quentin Dupieux, de ouf.
Et il a fait des films, par exemple, comme Fumer fait tousser, où c'est un truc... il a voulu reprendre, se mis un truc Power Rangers, si tu veux. Sauf que en gros, tous les membres de l'équipe, quoi, c'est genre un méfait du tabac.
Et
leur super attaque, c'est genre, ils donnent le cancer à un mec, tu vois. Tu crois que le film, ça va être ça? Au final, il se raconte des histoires d'horreur.
C'est en fait une suite presque une suite de sketch, je sais plus comment on appelle ça, il y a un terme.
C'est pas lui qui a fait avec Jean Dujardin.
Si, le Dain.
Le Dain. Okay, ça je l'ai vu.
Il a fait Mandibule aussi, où c'est une histoire d'une grosse mouche avec le Palmacho, enfin les deux acteurs du Palmacho qui sont les deux acteurs principaux.
Craig Marseille. David Marseille.
J'ai plus leur nom, moi. Grégory quelque chose, non? Il n'y a pas un truc comme ça?
Ouais.
Excusez-moi,
le Palmacho.
J'ai pas le knowledge nécessaire pour les noms d'acteurs, moi. Mais bref, en tout cas, il y a eux deux, super drôles. Et un jour, il y a une énorme mouche dans le coffre d'une voiture. Et il y en a un, il se dit, vas-y, frère, viens, on l'adresse et on fait de l'argent avec, en fait. Ça va être une dinguerie. C'est ça le spirit du film, tu vois. Et enfin, voilà, tu vois, c'est que des trucs vraiment barrés. C'était même lui, en tout cas, qui avait fait Steak à l'époque.
Ah, c'est lui, ok.
C'est lui, ça remonte, ce que j'allais dire. Lui, ça fait longtemps, au final, qu'il prend
un grand film.
Et moi, en fait, c'est le premier film que j'ai vu de lui, mais sans le savoir, parce que moi, à l'époque, on était beaucoup plus petits, et moi, j'étais fan de La Tour en Parnasse Infernale,
Final... Tout ce qui était Éric et Ramzy, on regardait direct.
Et le truc, c'est que le film qu'a suivi La Tour en Parnasse dans leur filmographie à eux, en duo en tout cas, porté par le duo et tout machin, c'était Steak, sauf que c'était l'humour de Quentin Dupieux, et nous, on n'était pas au courant, en fait. Ça veut dire que moi, c'est un film que j'avais vraiment pas aimé à l'époque, et je pense que j'étais trop petit pour comprendre l'humour de Quentin Dupieux aussi. Mais je suis sûr que si je le revois maintenant, En sachant que c'est lui, en connaissant plus son humour et même moi
avec
en
la vision
plus de, tu vois,
ouais, en étant, et puis en étant des adultes,
oui,
déjà,
c'est
tu
ça,
vois,
tu
parce
vois.
Que c'était nous, c'est exactement ce que tu disais. On s'attendait à je te mets une balle dans la tête, dans la main,
non, mais
et
tu vois ce que
je
veux dire. Les au final, c'était en mode Shivers, les bouteilles de lait,
ça,
les
c'était...
gars cool, mais pas cool.
C'était bizarre.
C'est, l'ambiance, elle était chelou de fou, mais au final, c'est des ambiances qu'on peut retrouver dans Le Dain ou tu vois, des trucs un peu comme ça.
Il faudrait le revoir, Steak, maintenant.
C'est ça,
de ouf. En vrai, il faut grave le thème.
Je sais que j'ai de la chance de découvrir Dupieux avec Wrong Cops.
Ouais, avec Marilyn Manson.
C'est ça.
Et Judas aussi qui est dedans.
Exactement. Et du coup, c'était un peu après, et c'était une période où, je me souviens, c'était mon beau-père, si je me souviens bien, qui m'avait dit regarde ça, ou on a regardé ça en même temps en fait. Et j'étais déjà à un âge où je pouvais capter un peu l'absurde bizarre, où tu sais, je regardais des trucs chelous aux États-Unis. Du coup, quand je suis tombé dessus, j'ai eu le recul de pouvoir me dire ok, c'est pas une comédie classique, je dois prendre la série d'un œil différent, parce que Bronx Cop, c'est vraiment juste une série pareille de mini-sketchs avec des keufs, avec des
c'est
acteurs.
C'est en anglais d'ailleurs.
C'est en anglais en plus, de ouf. Du coup, c'est hyper perturbant parce que tu dis, ben non, il y a plein d'acteurs français, il y a même Éric Judor qui est là, tu vois. Je me dis, c'est français.
C'est bizarre comme casting, Marilyn Manson, Éric Judor.
C'est très particulier, c'est vraiment hyper particulier, mais c'était, je trouve, une des meilleures introductions pour moi parce que du coup, j'avais quand même l'intérêt de me dire, ok, c'est qui derrière ça, tu vois. Alors que je pense, si j'étais tombé comme vous sur un steak où je me dis, je veux voir Éric Ramsey, j'aurais été trop déçu.
J'avoue, j'étais pas dans ces bails de réalisateur et tout.
Non, non, moi non plus, gros. T'es vraiment petit, on parle d'être au collège, je pense. Tu captes rien.
C'est ça. Moi, c'était à la période où j'ai envie de savoir il y a quoi comme réalisateur et tout, dans la période cinéphile un peu bizarre. Donc, c'était tombé pile au meilleur moment.
Ouais, c'est ça.
Trop lourd. Et du coup, il y a l'acteur principal Raphaël Quenard qui, lui, est fils d'un père chercheur en matériaux d'isolation. D'ailleurs, il y a écrit sur le wiki, entre parenthèses, pas clair. Il y a un gars, il a mis l'info, mais.
On sait pas comment on l'a eu.
C'est pas du tout ça. Et sa mère qui travaille à la Massif, apparemment. Il se fait repérer d'abord dans Family Business avec Jonathan Cohen sur Netflix. Je suis pas allé au bout de cette série personnellement.
C'est pas du tout tes mains.
Mais c'est une série comédie d'une famille qui se met à vendre de la beuh. Tu vois, il y a Gérard Darmon aussi. C'est quand même ça a été un gros succès Netflix.
Ouais, je vois ce que c'est.
Et lui, il a un rôle secondaire dedans parce que ça porte surtout sur Jonathan Cohen. En vrai, cette série, j'ai l'impression. Et du coup, il fait son premier rôle principal dans Yannick.
Et avant.
Et non, remarque, attends, je dis ça, mais le truc, c'est qu'il y a Cash sur Netflix qui est, où il est en rôle principal aussi. Et le truc, c'est que j'ai l'impression que c'est à moitié sorti en même temps, tu vois, un peu dans la même période.
Là, il est un peu en enfant prodige,
ouais,
tout ça en même temps avec
c'est
lui.
C'est
l'étoile dedans.
Montante, comme on dit.
Exactement.
Dans le cinéma français.
De ouf. Et non, je pense que lui, c'est un des talents à suivre, et du coup, tout arrive en même temps.
Ouais, ouais.
Et Yannick, c'est un peu la porte d'entrée,
c'est vrai.
Je trouve, pour tout ce qu'il a fait derrière, où tu dis, en fait, il était partout.
Parce que moi, la première fois que je l'ai vu que j'ai pas vraiment retenu Family Business, c'était dans Coupé, le film de Hazanavicius.
J'ai pas vu
où
encore.
Dedans, il a un rôle vraiment secondaire, mais déjà, tu le remarques parce que, tu sais, il a son parler, il a sa façon de jouer, tout qui est assez particulière et unique, tu vois. Et dans le film, il a un rôle en plus qui est assez drôle.
Okay.
Et je l'ai kiffé de fou et je me demandais d'où il débarquait, est-ce qu'on pouvait le voir autre part et tout, machin. Donc quand j'ai vu qu'il avait écrit un film pour lui, quand t'as interviewé, parce que c'est comme ça qu'il fait un peu ses films, tu vois, en mode, il l'écrit en sachant quel acteur il aura.
Ah ok, il a déjà dans la tête,
et voilà.
comme coup, certains grands, les Martin Scorsese.
C'est ça. Je l'ai découvert dans Je verrai toujours au visage techniquement.
Oui, bah ouais.
Mais pareil, c'est une scène de fin, spoiler, mais vraiment qui est courte de fou.
Ouf.
Mais même dans cette scène-là, en vrai, il prend de l'image, tu vois. T'as envie de voir d'où il peut aller, etc.
Il joue autre chose en plus dans ce film-là.
Ouf.
De la tragédie, c'est pas du tout le même perso qu'on voit, qui est un peu comique, tu vois, de base.
C'est ça.
Moi, j'ai même vu Chien de la casse, du coup, il y a pas longtemps avec lui. Film réalité, un peu, tu vois, sur les gens des campagnes. Qui font un peu rien de leur journée finalement. Tu
Donc
vois.
Ça marche avec
mais,
son perso.
Mais sauf que lui, il a beaucoup de culture, tu vois. Mais c'est juste qu'en fait, bah, ils sont galère en fait.
Quoi.
Tu vois, ils font rien, ils sont en campagne, ils sont là, ils traînent. Et lui, il a un personnage assez compliqué, assez complexe. Et très très beau film, très bien réalisé, ça joue super bien et tout. Voilà.
Du coup, ça peut rejoindre à son personnage Toyanic finalement un peu.
Ouais, un peu, ouais.
Ok.
Ouais.
Ah, c'est marrant.
Ouais, franchement, c'est pour ça que là, tous les rôles, en tout cas les premiers rôles qu'il a eu, parce que même dans Cash où c'est plus léger, plus comédie, finalement plus Netflix, tu vois, bah en vrai, ça marche grave. Il est toujours à la hauteur de ses castings, j'ai l'impression. Et du coup, pour revenir à Yannick. Tu veux en parler du film, dire un peu de quoi ça parle.
Déjà, le film dure 1h07 ou un truc comme ça.
Ouais.
Et c'est rien que ça, épisode. C'est ça. Pour rester autour du film, je sais que ça m'a fait bizarre de voir un film au cinéma de juste une heure, quand tu sortais d'un Barbie, d'un Oppenheimer, même d'un Gardien de la Galaxie où il faut minimum 3 heures, t'as l'impression. Du coup, c'était très particulier en fait comme moment, parce que t'as une heure concentrée avec que des personnages, et quand t'en ressors, en fait, t'as envie d'en parler, t'as envie de continuer, t'as envie de rentrer dedans, mais en même temps, l'œuvre se suffit tellement à cette heure-là. C'est trop intéressant, et pour ceux qui n'auraient pas vu le film, du coup, le prémisse, c'est du coup, le personnage de Yannick, qui est dans une salle de spectacle, théâtre, avec genre 20 personnes dans le public, et 3 acteurs sur scène qui font un vaudeville, une pièce de théâtre vraiment claquée. Ouais. Avec
Pio Marmaille, du coup, Blanche Gardin,
qui joue
le frérot dont on ne connaît toujours pas le nom.
Il faut quand même qu'on ait son nom à un moment, qu'on le name drop par respect.
Je vais chercher ça.
Et du coup, Pio Marmaille et Blanche Gardin, vu qu'ils jouent un couple aussi, qu'ils interagissent beaucoup pendant le film, c'est là où tu les remarques plus facilement, mais qui joue un couple qui, enfin, dans une scène de théâtre qui est catastrophique, où tu sais, ça surjoue, ça lance des phrases à rallonge, des répétitions, t'as l'impression qu'ils ont oublié leur texte. Et je tiens à souligner vraiment qu'ils jouent très bien, les acteurs qui jouent très mal, je trouve ça trop dur à faire.
Ouais,
jouer quelqu'un qui joue, déjà, c'est chaud, mais quelqu'un qui joue mal en plus par-dessus, je trouve ça fascinant. Et t'as juste le personnage d'Yannick qui se lève et qui dit « Je suis désolé, mais cette pièce, elle pue la merde », pour paraphraser, hein. Et je pense qu'on peut faire mieux, et ça devient en fait une prise d'otage. Et je pense que je veux laisser un peu le reste parce que c'est une prise d'otage par quelqu'un qui n'a pas du tout les codes du théâtre, qui s'en fout, etc., avec un échange avec une Blanche Gardin, un Pio Marmaille qui sont déstabilisés.
Et c'est, du coup, et Sébastien Chassagne.
Et Sébastien Chassagne, qu'on connaît tous.
Trio. Non, mais en plus, c'est horrible parce que vraiment, il joue tout aussi bien que les autres.
Exactement. C'est juste, mais c'est vrai que dans la pièce. Dans le film, il joue un personnage secondaire. Du coup, forcément, il interagit moins.
Les autres. Puis même, par exemple, Blanche Gardin, on la connaît depuis.
C'est ça.
Du Jamel Comedy Club. Oui, ça date.
Même Jean Marmaille, il a bien saigné le cinéma français même, je trouve.
Chassagne, ça fait moins longtemps. Enfin, je pense que ça fait peut-être aussi longtemps, mais je l'ai moins vu, en tout cas.
On l'a moins vu, ouais.
Et même dans le film, il se fait vanner dans le film. Donc tu te dis, t'as pas envie de te souvenir de l'acteur qui s'est fait vanner pendant une heure, tu vois.
C'est vrai, c'est vrai.
Mais c'est trop intéressant, c'est très bien mis en scène, et même si c'est très drôle, il y a vraiment des moments où ça faisait longtemps que j'avais pas autant rigolé, mais sincèrement, dans un cinéma.
Mais vraiment, gros, c'est ça aussi que j'ai trop kiffé. Moi, j'y allais sans savoir du tout de quoi ça parlait, déjà.
Ok, d'accord.
J'aime bien faire ça, j'avoue.
Tu t'étais pas fait sauter, parce qu'au pâté, même si je vous adore, hein, vraiment, cinépas, c'est incroyable, ils arrêtaient pas d'enchaîner les pubs sur Yannick, qui étaient des pubs de 10 secondes, où t'avais genre 2 phrases du film et des phrases vraiment gueuleries, mais qui indiquaient un peu ce qui se passait quand même dans la pièce, tu vois. Et du coup, j'étais un peu...
Ouais, tu savais qu'il y avait un truc dans un théâtre.
Je me suis tabassé sur le truc.
Okay.
Donc j'avais une idée un peu globale, mais toi, t'avais vraiment rien vu de tout ça.
Non.
Okay.
Mais parce que je suis pas trop allé au ciné dans cette période-là. Okay. C'est sorti cet été, enfin en août et tout, en juillet, je suis pas trop allé. Donc je pense que j'ai pu échapper aux nombreux teasings, tu vois.
Ok.
Mais moi, ce que j'ai kiffé dans le film, c'est qu'on passe par le rire, mais sans spoiler trop non plus. Il y a d'autres émotions qui viennent.
Clairement.
Ça finit par être super touchant.
Bah, j'ai failli chialer à la fin.
Ouais,
pas de rire.
Pour en avoir parlé avec d'autres gens, on a tous eu les frissons à la fin du film, parce qu'il y a une scène dont, pareil, je vais pas trop parler, mais super touchante.
Qui est courte
et courte toujours, vu que le film, de toute façon, on peut pas permettre autre chose. Mais ouais, en fait, je sais pas. Le film, il se regarde tellement bien, et ça m'a fait kiffer que ça soit moins barré que d'habitude, surtout que le dernier de Dupieux, c'était genre, je pense, le plus fucked up de tout.
C'était un de ses plus poussés, clairement.
Mais fait tousser, c'était un.
Ouais, c'est
et
ça.
Franchement, c'était. Tu sais, vu qu'il y avait plein de petites histoires et tout, il y avait des trucs vraiment où ça partait en couille. Et moi, ça me fait rire, en vrai, tu vois. Mais celui-là, je le trouve beaucoup plus accessible, et ça faisait plaisir aussi de le voir dans cet exercice-là et tout.
Et plus personnel aussi, où justement, Fumer fait tousser, t'as certes une ligne conductrice dans le film avec les mêmes personnages, mais t'as genre 3-4, si je me trompe pas, avec des Blanche Gardin qui reviennent, etc. Mais d'histoires qui n'ont rien à voir avec l'histoire principale, du coup, t'es un peu partout. Alors que là, t'es vraiment concentré sur les 4 gros persos principaux. Et le public aussi qui joue de temps en temps, en fait. Et même si t'avais le côté où j'avais un peu peur au début du film, même si je rigolais, etc., que ça soit un peu une pièce de théâtre filmée.
Oui,
parce que t'es dans le théâtre, etc. Je trouve qu'il a vraiment réussi à te faire sortir un peu par moment.
Les gens, ils existent, hein, gros.
C'est ça.
Moi, franchement, je suis dedans. On dirait un fait divers qui,
exactement,
un jour, pourquoi pas, pourrait arriver, tu vois.
C'est
juste un gars, imagine, il pète les plombs. Et voilà, il passe une mauvaise soirée, il est un peu barré de base, et c'est parti,
c'est ça,
tu vois.
Et même dans l'écriture, les personnages sont réels, tu vois.
Ouais.
Il est sorti un film, du coup, l'année dernière, qui s'appelait Incroyable mais vrai, avec le grand nom dont j'ai déjà oublié, Alain Chabat.
Oui.
Et d'autres acteurs, actrices incroyables, mais les personnages étaient surnaturel, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien de...
Bah, le concept aussi, tu vois.
C'est ça, c'est-à-dire que vraiment, c'est des... pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est des gens qui emménagent dans une maison où techniquement tu peux rajeunir dans la maison.
Et tu rajeunis de 2 heures, je crois.
C'est ça.
C'est ça.
Et du coup, les personnages pètent un peu un câble, etc. Mais de base, les personnages sont chelous, en fait. T'as des interactions avec les autres, des échanges qui sont pas du tout naturels. Alors que dans Yannick, j'y crois à ces personnages.
Ouais, tout peut exister.
C'est ça. Ils ont une histoire, tous, chacun. Et t'as envie de les suivre et t'as envie de savoir ce qui se passe.
Mais j'ai l'impression que c'est le premier film de Quentin Dupieux qui fait ça.
Je pense, en vrai.
Parce que tu vois, tu parles du daim. Tu sais, un gars qui aime tellement le daim qu'il finit par tuer tout le monde dans le. Non, tu sais. Enfin, c'était steak, c'est pareil, ils se mettent des agrafes sur le truc parce qu'il a pas les moyens de se payer de la chirurgie.
Dans Rubber, pareil, t'as un pneu qui te suit, au final, t'es juste un peu inquiet, mais t'es pas en... Enfin,
ouais.
J'ai tout pas vu encore...
C'est fantastique, tu vois, c'est ou ça. En tout cas un peu hors réalité.
J'ai pas vu réalité, mais c'est vrai que c'est
j'ai
souvent...
J'ai pas vu réalité non plus, mais je crois que c'est aussi fucked
up. Mais t'as un petit peu ça, peut-être, pour ceux qu'on a vu dans un autre film qui est, je trouve, un peu passé à la trappe, alors que c'est pas son... La fin est un peu décente, mais il est cool, c'est Au Poste.
Ah oui, avec Poulvord. Avec Poulvord et l'autre gars de Palma Show.
Exactement, Grégoire Ludic, du coup.
Exactement. J'ai dit Grégory, t'as vu.
Grégory, ouais, tu l'as américanisé, mais il est là.
J'étais presque là.
Et avec aussi un Orelsen qui passe dans le coin.
Ah oui.
Et c'est.
Au Poste, ouais, c'était un truc de ouf aussi.
T'as un truc un peu plus réel.
Aussi.
C'est ça, mais qui a quand même une fin qui est extravagante et t'as des scènes qui. T'es un peu perdu dans le temps. C'était un peu le côté négatif de Au Poste et qu'il était aussi court aussi comme film. T'étais un peu centré sur les mêmes personnages, mais je trouvais que j'avais du mal à rentrer et avoir de l'affect pour les personnages, là où Yannick, Raphaël Quenard, t'as envie d'être pote avec lui.
Oui.
Enfin, t'as envie de le connaître.
t'as envie de le connaître.
Être pote, c'est excessif, t'as envie de le connaître de ouf.
Non, mais je capte, en tout cas, il te touche, quoi.
C'est ça.
Mais sans trop spoiler et sans trop en dire toujours sur ce même film, il y a une question que le film pose, et que Yannick pose en vrai de vrai, tu vois. Il dit une phrase en mode de l'art, mais vas-y, tout le monde peut en faire de l'art. Ou tu vois, moi je suis pas venu voir de l'art, je suis venu me détendre. De quoi tu me parles de l'art, etc. Et le film pose un peu là cette question là finalement quand on voit tout le film. Évidemment, on a ouvert les fenêtres. C'est pas grave.
Voilà.
Mais vous êtes vraiment avec nous en immersion de toute façon.
C'est ça.
C'est ça, meilleure radio aussi. Mais ouais, non, et en gros, ça raconte aussi cette question-là, ça pose cette question-là de est-ce que tout le monde peut faire de l'art ?
C'est ça.
Et Loco, je crois que t'as quelque chose à nous dire par rapport à ça.
Ouais, moi, en fait, je voulais prendre l'exemple de gens qui font du contenu, en fait, de gens qui créent du contenu, parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a des gens comme les youtubeurs qui créent du contenu, c'est dissocié de l'art, alors qu'avant, quand tu créais quelque chose, il y avait... beaucoup plus souvent une tendance artistique.
Ouais,
là, il y a moyen de dissocier, en fait.
C'est ça, là, on a vraiment créé le concept de créateur de contenu.
Exactement. Donc,
sous le nouveau, palais large, en fait, quoi, c'est ça.
Et du coup, en fait, moi, je voulais parler en particulier de personnes qui avaient réussi, d'un YouTuber qui avait réussi à faire sa transformation de YouTuber, de créateur de contenu à créatif et à artiste et à musicien. Et en fait, c'est Joji. Qui est un mec qui est né au Japon, en fait, qui est d'origine japonaise, voilà, mais qui est allé en fait dans une école canadienne au Japon, donc du coup il parlait pas mal, il savait pas mal parler anglais. Il est d'origine aussi australienne, donc tu vois, c'est un peu, il a un petit, il s'appelle George Kurosawa Miller, ou si, un truc comme ça, George Miller en tout cas.
Ok.
Et en fait, ce gars-là, lui, il avait commencé...
C'est George Kusunoki Miller.
Kusunoki Miller, voilà. Ouais. Il avait commencé, en fait, avec à l'époque, du début des chaînes YouTube virales, un peu.
De l'époque.
De l'époque, ça remonte de fou. C'était le début de YouTube, en fait.
C'est ça. Enfin, c'était le début des gens
qui utilisaient YouTube pour ça,
en fait.
Qui n'utilisaient
pas YouTube pour juste mettre leurs vidéos de vacances ou des trucs. Qui utilisaient YouTube comme un média de...
Une plateforme de promotion pour eux-mêmes, voilà, c'est ça. Et en fait, lui, il avait une chaîne qui s'appelait Filthy Frank. Enfin, en fait, Filthy Frank, il avait une autre chaîne avant qui était la même chose que Filthy Frank, mais qui risquait d'être strike, en fait. Donc, du coup, il avait changé sur Filthy Frank.
Strike, ça veut dire banni.
Banni,
en gros,
voilà. Filthy Frank, c'était un de ses personnages, une personnalité qu'il
alter
avait
ego.
Créé. C'est ça, un alter ego, où il faisait des trucs edgy, des trucs décalés à la con, tu vois, des trucs sales un peu aussi. Et ça marchait à mort, mais vraiment énormément, en fait. Et du coup, il a continué à mettre, voilà, de... continué beaucoup à parler de, en tant que Filthy Frank, à faire beaucoup de skits, de petits sketchs, des trucs comme ça. Et en fait, à partir de ça, il y a eu une deuxième alter ego qui est né, qui s'appelle Pingai. Et en fait, Pingai, pareil, il faisait des trucs un peu stupides à la Filthy Frank au début. Et en fait, il a commencé à faire quelques petits sons, quelques petites vidéos qui étaient plus musicales, en fait.
Ouais, qui n'étaient pas forcément de la parodie, c'est ça, qui était de la musique sous l'image de Pingai.
C'est ça, mais c'était quand même un peu de la parodie, c'était quand même décalé, en fait. Mais c'était décalé, mais c'était pas mal fait, d'ailleurs.
C'est ça.
Et en fait, à ce moment-là, en parallèle de ça, il y avait aussi déjà Joji qui commençait, lui, le même gars, en fait, qui commençait à lancer des petits trucs, des petites ligues, des choses comme ça sur Internet en tant que Joji.
C'était SoundCloud,
mais
beaucoup.
Au final, c'est ça, très SoundCloud, Worldstar, Money, machin, ouais, les remix et tout. Sauf qu'au final, en fait, à ce moment-là, Joji marchait moins que son alter ego qui était
Filthy Frank.
Et surtout, particulièrement, son alter ego musical qui était Pingai. D'ailleurs, il a sorti un album et une version de luxe de cet album.
En vrai, la mixtape,
qui est pas dégueulasse.
Il y a des sons, il y a des sons catastrophiques.
Exact. Bah, où c'est vraiment Pingai.
C'est ça. Faut pas écouter ça en public. Et il y a des sons en vrai qui s'écoutent encore parce que où t'as l'impression que justement c'est où il tente de lancer, enfin pas de lancer Joji, mais tu sais de placer un Joji au hasard.
Exactement. Et d'ailleurs il n'en a pas honte, je pense, parce que quand tu tapes Joji album sur Google, et ben le seul truc hors Joji qui apparaît dans sa filmographie, c'est le Pink Tape.
Ok, donc c'est-à-dire que pour lui, ça fait quand même partie
de son parcours. Ouais,
ça fait partie de son parcours. Et en fait, à partir de là, le Filthy Frank et tout ça, ça a commencé à... Il n'avait plus besoin de ça, en fait, pour pouvoir financer sa musique, pour pouvoir aider à sa carrière musicale et ce qu'il essayait de faire, en fait. Et du coup, il a tué le personnage de Filthy Frank dans une vidéo bizarre, la fin de Filthy Frank, chelou, qui a hyper bien marché, qui a tourné un truc de fou. Et au final, derrière, il a décidé de se lancer complètement dans Joji.
Moi, je veux quand même préciser un truc sur son époque Pingai et tout. C'est que c'est quand même lui qui a lancé le Harlem Shake.
C'est
lui qui a lancé le Harlem Shake.
En plus, il a lancé sans vouloir le lancer.
C'était juste
une vidéo où il y avait lui et ses potes qui dansaient avec le même parcours, enfin pas parcours, mais le même pattern
mouvement.
C'était pas un truc viral.
C'est ça, en fait. C'était lui qui dansait sur le son de Bauer, en plus, Harlem Shake. Et au moment du drop, tout le monde qui danse comme un débile. Et ça n'a pas pris immédiatement. Non. Je crois que ça a pris au moins un petit peu de temps.
Facile. Et là, j'ai la vidéo sous les yeux et ça s'appelle Do the Harlem Shake original, genre. Et c'est 67 millions de vues sur une chaîne Disaster Music Army.
Disaster Music, c'est la chaîne juste avant Filthy Frank.
Ok, d'accord.
Qu'il a fait, c'est la toute première et c'est celle-là qui a été menacée d'être bannie, en fait. Du coup, il a créé Filthy Frank TV, où du coup, c'était la même chose, mais en fait.
C'était il y a combien d'années cette vidéo?
Ça a 10 ans.
Voilà. 10 ans. Mais c'est vrai qu'il a eu des succès avec le Harlem Shake et machin, il a eu des succès énormes. Et au total, sur toutes les chaînes, sur toutes ces chaînes YouTube compilées, machin, il a eu 1,5 milliard de vues. Ce qui est énorme. 1,5 milliard de personnes ont regardé des vidéos de lui. C'est une dinguerie, tu vois. C'était vraiment un des plus gros.
Filthy Frank, quoi. Je sais que ça avait un peu créé limite un style de contenu.
Exactement, le truc décalé, edgy, bizarre, avec des cuts étranges, un peu incel sur les bords.
Ouais, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de vannes sur les sujets, sur des meufs ou sur les. Mais ce qui était différent, je trouvais, ce qui s'est fait un peu après, c'est que c'était pas la provocation pure, c'était juste du pur n'importe quoi. Enfin, c'était à l'époque où vraiment l'humour aléatoire, où tu faisais des mots au hasard, où tu faisais des trucs au hasard, c'était à son pic, mais lui, il faisait vraiment de la meilleure façon possible.
Pour moi, c'était un peu, en fait, une version comédie de Jackass, en fait.
C'est ça.
Sans les cascades, le machin, où en fait, on fait
très
un
internet.
Peu n'importe quoi, c'est très internet, ouais, exactement, et même pré-Jackass, genre Wild Boys, tout ça.
C'est ça, c'est vrai que c'était un Jackass connecté, dans le sens où, genre, c'était de faire de les conneries en public, parce que c'est ça, il faisait beaucoup de vidéos en public, où juste, il se tapait presque avec des gens, où il se faisait renverser des trucs à la con, mais avec genre des sketchs autour, des personnages, etc., ce qui est plus guidé, ce qui est quand même plus YouTube à cette époque-là. Il y a 10 piges déjà.
C'est ça. Et en fait, après, du coup, il a laissé de côté cette période YouTube, tout ça. Il a laissé Filthy Frank, Pingai, machin, pour se concentrer seulement sur Joji. Et juste d'abord sur SoundCloud, en lâchant des sons qui marchait bien, en fait, mais juste c'était son par son, il désactivait les commentaires, machin, voilà. Et au final, il a sorti son premier album, enfin son premier EP en 2017. Et cette EP a vraiment bien marché, a été bien reçue. Notamment, il y a eu quelques sons, Willy et un autre qui ont bien marché, dont un qui a été platiné. une fois, tu vois.
Sur ce, putain, c'est ça. Cette EP-là, ouais.
Et en fait, après ça, en fait, là, les gens ont commencé à le prendre un peu plus au sérieux. Et pour son projet d'après, il a pu, en fait, avoir des collaborations de personnes qui étaient un peu... Il y a Clams Casino, Shlomo, Grime...
C'est dans cette période-là où il a aussi rejoint plus ou moins 88 Rising.
C'est ça, après j'y viens, en fait. Ouais, et du coup, justement, ça a bien marché. Justement, il s'est fait repérer en partie avec l'EP d'avant, Ballads, voilà. Et en fait, justement, il a signé sur 88, avec 88 Rising, qui est un label, en fait, qui a été créé par un Américain d'origine asiatique, je ne sais plus de quel pays. Et en fait, lui, ils ont créé ça dans le but de faire un pont, en fait, entre l'amour pour le hip-hop que une bonne partie de l'Asie a, en fait, qu'on voit même avec la danse, la culture, les fringues, les machins et tout, et la musique américaine, et notamment les audiences américaines, et notamment en prenant des artistes qui étaient... en place, en fait, déjà sur Internet, ou avec, justement, qui avait des fanbases qui étaient aussi beaucoup occidentales, en fait.
C'est ça. C'est
et du coup, il a pris Joji.
Il y a eu Joji, il y a eu
Keith Fape aussi. Vous vous souvenez de ça, là ?
Keith Fape, Ijima.
Ah oui. Ijima.
C'est ça.
C'était
Il y a eu Dub Founded, Rich Brian, en fait, pas mal de... Nicky.
Okazian aussi, je sais pas si vous savez.
Non, ça me dit rien, ça.
Rina Sawayama, qui est une artiste anglaise, qui est incroyable, mais qui était de base dans 88 Rising.
Et il y avait Josh Pan aussi, le gars de Castle Beat.
Récemment décédé aussi, August O'Haight, qui était un artiste incroyable, mais malheureusement, qui nous a quittés il y a pas très longtemps. Donc ouais, non, 88 Rising, il est arrivé à un moment...
C'était big à un moment.
Ouais, c'est ça.
Ouais, ils avaient fait une tape entière, justement, ouais, avec tout le monde dedans.
Cool. Et même avec Rich Brian, qui avait anciennement...
Rich Chiga.
Voilà. Et lui, pareil, qui était aussi un gars qui vient un peu du YouTube, au final.
Ouais, parce que lui, il faisait des Vines, il faisait des vidéos YouTube, en fait. Et tout, et genre, il s'est mis à vraiment rapper au début en full parodie.
Exactement.
Et maintenant, c'est un artiste confirmé qui est assez cool, en vrai.
Ouais, ça fonctionne.
Qui a un son avec... qui tourne partout sur TikTok, avec Baby No Money aussi. C'est pas de la merde. Et non, franchement, ces artistes-là, ouais, ils avaient une base qui était un peu bordélique, où t'avais limite un côté haute future asiatique, tu vois, où genre t'avais tout le monde.
Et puis ça s'est structuré de fou maintenant. Surtout, ça s'est structuré autour du label 88 Rising.
C'est ça, qui ont ramené des Skimas, qui ont ramené des Blockboy JB, qui ont fait des collabs qui étaient du coup très cool, Asie et États-Unis. Ouais.
Mais quand tu lis, par contre, comment s'est présenté leur site, comment le gars les interviews, machin, il y a quand même un côté, c'est très 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 business, en tout cas pour c'était peut-être pas le cas pour le fondateur, mais ça, on voit que c'est très business quand même pour
ils font des tournées, ils font des showcases, etc. Ils ramènent des gens, genre, pareil, dans les diaspora asiatique très connue, t'as des Yeji aussi qui ont tourné.
Quand
avec
tu veux dire business, c'est quoi qui
non, non, bah en fait, non, non, mais en fait, c'est que quand tu regardes la description, je trouvais que, en fait, à la base, en fait, tu voyais que c'était comment c'était utilisé, comment c'est structuré et tout. En fait, tu comprends que ils font leur com un peu comme si c'était un groupe.
Ok.
Un peu comme si famille, machin et tout.
C'est
beaucoup plus, quand tu regardes comment ça fonctionne, leur truc, machin, c'est beaucoup plus dans le label pyramidal, classique, quoi, pyramidal, voilà, machin. Et du coup, c'est vrai qu'au départ, quand j'ai fait les petites recherches et que j'ai commencé à regarder un peu, machin, ça m'a surpris, en fait, parce que par rapport à ce que.
Tu pensais que c'était beaucoup plus rose que ça.
C'est ça,
sans dire que c'est forcément sombre, mais en tout cas,
Oui, c'est ça. Et je pensais que.
Plus amical, quoi.
C'est ça, et que je pensais que je savais pas que la tête de 88 Rising, c'était pas un artiste. Ou un ancien artiste, que c'était un gars qui venait du business.
Ce que je suis en train de voir, c'est un entrepreneur qui s'appelle Jason Ma, qui est du coup sino-américain, donc qui est d'origine chinoise. Et ouais, c'est pas du tout
qui gère le truc. Et ouais, pareil, tu vois,
c'est Sean Miyashiro, désolé pour les prononciations catastrophiques.
Et pareil, c'est des gars qui, voilà, donc mais c'est en attendant, ils font quand même quelque chose qui est intéressant et qui a pas été trop tenté par d'autres.
Après, de toute façon, un label, c'est un business.
Oui,
aussi,
c'est ça.
Tu veux produire des gens, il faut de l'argent.
Non, c'est juste que ça détonnait un peu avec com qu'ils avaient, en fait.
Ouais, si tu dis que c'était comme un haut de futur.
C'était ça. Puis après, il a raison, exactement raison, Théo. Ça a pris un peu un step back. Et justement, on se demandait, 88 Rising, qu'est-ce que c'est devenu et tout. Puis en fait, c'était toujours là, mais vraiment plus en label. et enfin en étant plus le money, enfin le money side, tu vois, l'argent, le machin.
Mais au final, Haute Future s'est séparé pour des raisons presque similaires, tu vois.
Oui, c'est sûr.
Pour ceux qui savent pas, c'était du coup un groupe avec, si je me trompe pas, Tyler, Frank Ocean,
Earl Sweatshirt,
il y avait
The Internet,
Sid. Sid, voilà, c'est ça que je voulais dire.
Sid Daki, Domogenesis, c'est ça.
Un sacré groupe, et au final ils sont tous partis en solo. Il y en a qui sont devenus des superstars, d'autres plus underground, mais
il y en a qui sont dans Jackass. Jasper qui est dans le dernier Jackass, du coup le dernier film. Donc ouais, non, t'as un peu tout.
Et au début c'était vraiment, ça faisait bande d'ados, tu vois, Los Angeles,
on traîne ensemble,
cool, un peu cool kids et un peu trasher quand même sur certains points.
Et ACH Rising, j'avais l'impression que c'était le pré-Brockhampton, où c'était des gens qui réunissaient des artistes de la diaspora asiatique aux États-Unis.
C'était ça leur leur truc, c'était.
Mais qui s'est très vite transformé en label, contrairement à Brockhampton, qui sont juste devenus un groupe et après qui sont séparés, etc.
C'est exactement ça. C'est cette transition en fait que j'ai manqué en fait, je pense. Okay. Du coup, ça m'a un peu surpris quand
t'es revenu sur le truc.
Ouais. Ok, en fait, c'est pas du tout ce que je pensais. Mais en tout cas, voilà ça.
Et du coup, Joji, ouais, fait partie de ça. Il a participé à presque toutes les tapes, je crois, de 88 Rising, avec un ou deux sons. Et
C'est lui le plus gros nom, en fait.
C'est ça. Je crois que c'est à ce moment-là où il y a un peu la vraie transition de c'est vraiment le Fifi Fin qu'on peut oublier. Parce que pendant, même au début, quand il y avait Ballads, quand on a eu le premier projet, j'avais l'impression que je vois encore sur Internet des gens qui disaient à tout moment, il revient, quoi. À tout moment, c'était une blague, et Pinga, il revient, c'était juste un marque dans sa carrière.
Il y avait une partie de la fanbase qui avait suivi, alors qu'en fait, après, il a justement réussi à intégrer des nouvelles personnes qui étaient là, ah bon, c'est Pinga, et machin et tout. Parce que, genre, par exemple, Slow Dancing in the Dark, là, ce truc, il a été platine, ça a marché un truc de fou. Genre, je sais plus combien de millions de
maintenant,
vues.
Maintenant, c'est une superstar, maintenant.
À ce moment-là, c'était un artiste.
Lui, ça a réussi, en fait. Il a réussi à faire ce transfert, et surtout pas n'importe quel transfert, parce que c'est pas genre un gars qui faisait des petits sketchs petites vidéos YouTube où il chantait, par exemple. On oublie, mais Justin Bieber, il a commencé sa carrière avec des vidéos sur YouTube où il chantait.
C'est vrai.
Et lui,
c'est Scooter Brown qui l'a repéré.
Exactement,
sur YouTube.
Du coup, c'est de la transition. Pour moi, c'est pas un YouTuber, tu vois. Tu chantes sur YouTube, t'es un
musicien. C'est ça, alors que là, Fifi Frank et machin, c'était vraiment du YouTube
pur et dur.
Et lui, il a réussi, alors qu'il y en a d'autres d'autres côtés qui n'ont pas réussi. Et l'anti-exemple, parce qu'il y en a qu'on pourrait continuer, il y a d'autres exemples qui ont réussi. Il y a KSI.
KSI,
on se rend pas compte, mais en Angleterre, il a eu, je crois que c'est 7 ou 8 morceaux qui ont été dans le top 15.
Il
a des disques de platine, des machins.
Il est énorme en
Angleterre. Il a des sons avec. En fait, si tu regardes, je l'ai dans mon téléphone.
Il a des feats, ouais, avec.
J'ai
des
regardé,
gros,
en fait, okay, comparé à Skepta. Comparé à Skepta et Stormzy, donc qui sont des artistes anglais énormes, voilà. Et bah. Oui, KSI, 8 680 000
sur Spotify.
Stormzy, 9 millions, et Skepta, 9 millions. Donc, vous voyez,
il a un million d'écart
avec Skepta et Stormzy. C'est insane.
Alors que actuellement,
c'est
fait genre des react vidéos à des TikTok.
Toujours,
quoi.
C'est ça. Du coup, lui, il a continué de faire les deux. Il fait de la boxe, là, machin et tout. Et lui, ça a fonctionné.
Avec les Jack Paul, avec
Il y a aussi Quadeka. Qui avait fait des trucs de merde, pas dans le même registre que Fifi Frank, où c'était que des skits, mais lui c'était plutôt orienté un peu musique.
Quadeka, il y avait toujours un côté
les 20 styles de rap différents.
C'était le genre de tueur, c'est ça qui faisait, genre pas des tutos pour comment rapper, mais qui faisait des imitations de rappeurs, etc.
Qui avait participé, quand il y a eu toute cette era de beef sur YouTube où les youtubeurs ils faisaient des diss tracks les uns avec les autres. Vous vous souvenez de ça? Et bah lui il avait participé à ça et tout, et au final il a sorti pas mal d'albums et c'est toujours un peu un youtubeur machin. Et là récemment, en 2022 je crois, il a sorti un album, le dernier album, Quadeka, et c'est un album qui est hyper expérimental, qui est vraiment réussi, et qui a même, moi je lui prête pas forcément beaucoup de d'attention à son opinion, mais j'ai vu que, comment il s'appelle, le chauve là, Anthony Fontano, voilà.
Needle Drop.
Ouais. Et bah il lui avait mis genre un 9 ou un truc comme ça, genre.
Okay, alors qu'il est dur.
Fontano,
est...
c'est un youtubeur critique.
Critique musique, genre qui est hyper.
Super connu.
Qui a donné et qui est très critique.
Ouais, qui avait allumé Drake et Drake avait
dégoûté,
ou je sais plus comment, je sais plus ce qui s'était passé.
Il avait envoyé un DM.
Oui, c'est ça.
Même il avait mis 7 à My Beautiful Dark Fantasy et tout, et du coup, ça, les gens ils sont là, quoi.
Moi, je suis encore révolté là-dessus. Un 7 sur 10 sur cet album,
mauvaise.
Et du coup, en fait, il a mis une très bonne note. Et, et pareil, quoi, des cas, c'était un gars, quand tu regardes ses premières vidéos, ses machins, c'était les premières vidéos qu'il a fait, il avait 11 ans. Et c'était des vidéos où il faisait. Il jouait à FIFA, en gros, quoi. Ou à Call of et machin. Il faisait genre du rap derrière, ou des trucs à la con. Enfin, voilà. Et lui, il a réussi, pareil, ce transfert, en fait. Tu vois. Alors que d'autres n'ont pas réussi. Et justement, vous en avez parlé juste avant, là. Logan Paul, par exemple, Logan Paul, il a essayé.
Après, de faire de la musique.
Ouais, il y a 6 ou 7 sons de Logan Paul.
Logan est horrible.
Logan Paul, c'est pas qu'il. Non, ils sont horribles, les sons.
Il a dit en interview qu'en fait, il avait essayé. Avait échoué, en fait. Ouais. Il dit, moi, je peux pas être assis toute la journée, machin, taper sur un son. Il dit, je peux pas, enfin, c'est pas pour moi, en fait, tu vois. Genre, il a reconnu que c'était un échec, tu vois, et que ça n'avait pas fonctionné. En fait.
C'est bien de l'assumer comme ça.
En vrai, mais pour moi, Logan Paul, il y a toujours eu un côté van dans sa musique. Parce que les sons que j'ai en tête de Logan Paul, c'est des clashs envers son frère.
Bah, justement, ça fait partie de la YouTube diss-track. Mais justement, en fait, après ça, son dernier son est sorti en 2020.
Putain, mais c'est. Ah oui, parce que pour moi, cette période-là, c'était 2018 ou plus tard.
Justement, il disait dans des interviews, il disait. Justement dans la même truc où il reconnaissait, c'était sur un podcast à la con, où il reconnaissait qu'il avait essayé, que ça avait pas marché machin, qu'il avait essayé de prendre ça sérieusement, en fait au départ c'était pas le cas, et que petit à petit il avait essayé de prendre ça sérieusement, et qu'en gros il s'est pris un mur, quoi, genre là, clairement il s'est dit
son ref pareil, il y a eu des sons et ça s'entendait plus, je trouve, où il essayait de se prendre au sérieux, et en fait c'était qu'est-ce que fait Drake actuellement, je fais la même chose du coup. Donc ça m'étonne pas que les deux ont pu fail, mais je pensais pas que Logan Paul ça continuait. Enfin, il avait essayé quand même, parce que pour moi, ça fait partie de ces youtubeurs qui ont eu une période. Il y a eu déjà une grosse diaspora de anciens Vayner qui sont allés sur YouTube, qui ont tout fait, qui ont un peu limite ruiné la plateforme, et qui sont repartis un peu maintenant faire leur truc. Et Logan Paul, vraiment, c'était ça, c'était ancien Vayner, youtubeur, plus ou moins de la musique, des clashs, vraie musique, et maintenant c'est lutteur boxeur. Son ref, c'était à peu près la même chose pour moi, genre de ce que j'ai vu, parce que je suivais vraiment pas.
C'était Jake, lui. Hein.
C'est Jake Paul, c'est ça. Ouais. Et après, Logan Paul, plus avec son petit drame au Japon.
C'était au même moment où, en fait, il commençait à réfléchir à rendre ça sérieux. Et d'ailleurs, dans un interview, il a dit que, justement, il voulait sortir un projet. Et ils avaient bossé sur 6 morceaux qu'ils trouvaient vraiment, vraiment bien. Et en fait, ça s'est jamais sorti parce que c'était nul, quoi. En fait.
Mais je te jure que ça m'étonne que lui, en se mettant à la musique, ça donne quelque chose de mauvais.
Parce qu'ils savent pas écrire, ces gars-là.
Pour régler ça, il est allé en Suède bosser avec je sais plus quel producteur, ghostwriter maintenant, pour plein de stars, en fait. Notamment Ariana Grande, des trucs comme ça. Il a pris pendant un an cours de vocalise. Pendant un an, il a pris des cours de vocalise
pour
aller nulle part. C'est aller nulle part. Même lui.
Pour faire du rap au final.
C'est ça, nulle part.
T'es terrible.
Non, mais tu sais, genre contrôle du souffle, ou je sais pas. J'en sais rien, en tout cas.
Il a dû se faire des films sur ses coachs chanteurs. Il s'est dit, peut-être, je vais devenir Ariana Grande.
Et au final.
Va
te battre, hein. C'est mieux. Hein.
Ah ouais, ça, c'est pas pour tout le monde, par contre. Hein. On sera pas tous comme ça.
Cette période était marrante. Parce que même moi, je sais que j'écoutais. Enfin, genre, vu que j'aimais tout dans le rap et que j'aimais beaucoup YouTube, il y avait des youtubeurs qui faisaient genre. Ça remonte, hein, mais genre Epic Rap Battle of History, ce genre de truc. Si ça parle à des gens, vraiment, on se comprend.
Si j'ai déjà vu Epic Rap Battle, c'est ça. Avec le gars, et genre, fait,
c'était des concepts à la con de genre, c'était Epic Lloyd et un autre gars, j'ai oublié son nom, c'était deux youtubeurs qui prenaient deux personnes connues, qui cosplayaient en ces personnes connues. Donc c'était vraiment genre du. Il y avait genre les Tortues Ninja et les philosophes qui représentaient, tu vois. Et c'était des clashs rap, en fait.
Ok.
Et moi, j'écoutais ça parce que j'étais un gamin et que, vas-y, je trouvais ça marrant, tu vois, de voir des gens genre Masterchef et. comment, le gars de 300 Léonidas qui se clash, je trouvais ça marrant, en plus il y avait des critiques, etc. Mais quand tu réécoutes maintenant, c'est des YouTube, c'est du rap de YouTube. C'est pour moi cette définition
là. C'est un rap sketch. C'est ça.
C'est-à-dire qu'il y a 10 000 jeux de mots par phrase, plein de références, etc. Il faut qu'il y ait des pauses pour que ce soit drôle et tout. Du coup, c'est pas la transition qu'on a pu avoir.
De la musique pour faire.
C'est ça. C'est que c'est sûrement des rappeurs, mais eux sont dit ma musique, ça sera pour ce type de contenu, pour faire ce genre de choses, etc.
J'ai capté.
Là où Joji, par exemple, ça a été. Je fais des conneries sur YouTube et je fais des trucs sérieux qui me parlent de moi, qui parlent de ce que je fais, etc. Et la transition, je trouve, elle est plus intéressante dans ce niveau-là que dans le reste où c'est juste faire le même truc en boucle.
Il y en a un qui est de. Enfin, là, c'est de passer de créateur de contenu à un véritable artiste, quoi.
C'est ça.
Une identité, machin.
En France, on a quelques exemples.
On en a, en vrai.
Moi, j'estime qu'il n'y en a qu'un vraiment qui a réussi. En tout cas, si on parle de musique, tu vois, j'ai pas d'exemple dans d'autres domaines artistiques. Tu sais, cinéma ou tout ça, j'ai pas
qui me vient. Fianso qui fait un peu de théâtre quand même.
Mais on parle de transition artistique.
Ouais, transition totale.
On parle pas de créateur de contenu à un truc plus artistique.
Non, ouais, c'est plus compliqué.
Mais genre, ouais, pour moi, je pense à forcément Yvick, Mister V qui a réussi le truc. En tout cas, dans les chiffres, tu vois.
Et qui surfe sur les deux, c'est ça qui est.
Ouais, lui, il continue à être très sur YouTube.
Qui a encore autre chose, je trouve.
Et à faire évoluer son contenu, à toujours être au top, d'ailleurs.
C'est ça.
Et lui, j'ai l'impression, de toute façon, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il entreprend, ça cartonne.
C'est, il a toujours pas un minimum floppé.
Je te jure, c'est une dinguerie. Mais par exemple, tu vois, même pour le coup, le plus gros YouTuber qu'on puisse avoir en France, qui est Squeezie, la musique, ça a été plus ou moins compliqué.
Il y a un album qui est sorti.
Ouais, il y a eu un album Onyx avec Régular à la cover, au design du CD. Donc Régular, c'est celui qui fait Nekfeu, qui fait Alpha, qui fait L'Homme Pâle, qui fait Orelsan. Il a pris le rouleau compresseur de vas-y, je vais sortir un album, on va faire les choses en grand. Il a eu un feat avec Gambi, avec un gros clip. Le clip, il est frais en plus.
En vrai.
Et moi, il y a quand même un truc que j'avais aimé dans sa démarche, c'est que c'était pas vraiment un album de rap, et que c'était plus un album de pop, tu vois.
Okay.
Plus ou moins bien fait, ça dépend après des goûts de chacun et tout, machin. Mais en tout cas, j'ai kiffé qu'il soit pas arrivé en mode « moi, je suis un rappeur aujourd'hui », tu vois. Parce que je pense, moi, c'est pas ce qui dégage, je me dis pas que c'est un bousiller de rap.
Non,
même si t'es pas obligé de l'être pour refaire du rap, mais je veux dire, je sais pas, ça m'a plu qu'il fasse peut-être vraiment la musique qu'il a envie de faire.
C'était
et qu'il
ça,
dise
en fait.
Pas vas-y c'est le rap qu'on a envie, c'est le rap maintenant qu'on fait.
Il y a un truc qui se vend en ce moment, c'est faire du rap, du coup je vais le faire.
Voilà,
il y avait un truc de j'ai envie de faire de la musique parce que il y a des trucs qui me parlent, il y a des producteurs qui j'ai envie de taffer, etc. Du coup, ouais,
mais pour le coup, lui, il a vraiment fait un album ou pas un truc de youtubeur, tu vois.
Non, c'est ça.
Mais
avec ce qu'il pensait.
C'est peut-être pas pour lui ou j'en sais rien, mais en tout cas, je sais que ça a pas autant marché qu'on pourrait attendre avec le statut qu'a Squeezie, tu vois, qui est un, si ce n'est le plus gros youtubeur français, tu vois.
Je pense actuellement, c'est au moins top 3, facilement.
Bah, easy, gros. Easy. Je pense que c'est même lui qui est sur le podium.
Ouais.
Par contre, il y a des gens qui sont tellement talentueux que d'autres personnes peuvent faire de l'argent avec, avec l'art de cette personne-là.
Parce qu'on revient à cette question-là de est-ce que tout le monde peut faire de l'art ? Des gens qui ne peuvent pas le faire, mais d'autres le font, donc autant
tellement
en profiter.
Bien, autant, oui, voilà, c'est ça, ça peut profiter aux autres. Et c'est toi qui vas nous parler de ça aujourd'hui au télé.
J'ai fait un petit... J'ai noté, j'ai écrit... Vraiment pour être dedans.
Il est investi.
C'est ça. J'ai besoin.
Ça veut dire qu'on a le droit de juger sa chronique. On a le droit de donner une note parce qu'il a fait un vrai boulot aujourd'hui.
J'ai pas voulu la lire mot pour mot non plus. Hein. Je vais essayer quand même de rendre ça humain. Mais je suis pas journaliste. Hein, mais c'est juste. C'est quelque chose que déjà j'avais fait. Genre, j'avais grave tweeté dessus parce que c'était un moment où j'avais besoin de. Je trouvais ça trop fou pour qu'il n'y ait pas trop de conversation autour. Et que personne, et qu'il n'y ait pas eu au moins une trace quelque part que quelqu'un en ait parlé.
Il était sur quel Twitter, celui-là, sur ton public ou ton privé?
Sur mon privé. Sur
sachez
privé.
Qu'il a un Twitter privé qui est assassin.
C'est ça. Si jamais ce podcast a plus de 10 000 écoutes, je lâcherai mon privé en public.
Régalade.
À 10 000 écoutes, je ferai
après. Parlez-en autour de vous, parce que vraiment, il est temps de voir ses tweets en public. On rigole vraiment là-bas.
Je suis pas sûr. Faudrait que j'aille faire un tour ce soir. Mais du coup, ça remonte à quelques années. Donc, c'était genre vers 2021. Je me souviens que je me baladais à la FNAC des Halles de Paname. Et c'était un moment où il y a eu une annonce que Kendrick Lamar allait sortir un album. On n'avait pas encore le nom, je crois. On avait juste à peine un peu d'informations. C'était encore à l'époque où on parlait qu'il y aurait des influences rock. Je sais pas si vous vous souvenez si de ça. C'est quand il y avait eu des infos sur l'album, tout le monde disait, il y a des grosses influences rock.
Moi, tu sais que j'y ai cru jusqu'à la sortie, hein, frère.
Moi, j'y ai cru. Je trouvais ça un peu bizarre. Et surtout quand tu cherchais, en fait, c'est juste qu'il était dans un studio qui était connu pour faire des sons rock. Mais c'était à cette époque-là, en gros.
On était traumatisés, parce que la dernière fois, c'était l'album rock de Lil Wayne, Rebirth.
Ouais, ça fait toujours peur quand un rappeur a des influences rock sur un album.
Il y a eu This is Peter Punk. Enfin, c'était ça.
Et du coup, à cette époque-là, je me balade dans Fnac et je vois un album de Kendrick, et je sais que j'ai pas cet album, parce que je collectionne un peu quand même un minimum en CD, en vinyle, et je vois une pochette que j'ai pas du tout, etc. Et je vois que ça s'appelle I Am Kendrick. Donc c'était pas les rumeurs, je trouvais ça bizarre et tout, c'était à côté de Dame, etc. Et la photo déjà me parlait de ouf, donc j'ai ramené physique, je vais pas vous le montrer malheureusement sur audio, mais la photo, c'est une photo qui n'est jamais vraiment officiellement sortie, mais c'est un leak du tournage de Humble.
Mais je reconnais, c'est la...
Et c'est une scène que tu veux voir dans Humble où il est avec...
Il est dans le... Enfin, c'est pas un barbeur, mais
c'est ça, avec un truc
un
sur
salon
le...
de coiffure.
Un salon de coiffure avec des meufs autour.
Pour les bigoudis, là.
C'est ça. Et du coup, tu retournes le CD et tu vois clairement que c'est une photo de Kung Fu Kenny. Genre, il a les tresses collées, il est en habit Kung Fu Kenny, donc c'est clairement la tournée d'Em. Et tu regardes un peu la tracklist et il y a des noms qui reviennent... Et déjà, à la tracklist, je sentais que ça puait. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de nouvel album. Je sais qu'il n'a pas fait I Am Kendrick comme album. Et t'as des sons qui s'appellent Doves featuring SZA. Sachant qu'il a un son qui s'appelle Doves in the Wind avec SZA. Je trouvais ça chelou. T'as un son qui s'appelle Up avec 50 Cent. Il avait déjà un son qui s'appelle We Up. Donc, il y a une personne trop curieuse qui me dit, bon, je vais être un connard, je vais payer 12 balles.
C'était 12 balles en plus.
C'était 12 balles. Et je me suis dit, parce que j'ai besoin de savoir en fait, parce que je sais pas si c'est sur YouTube, etc. Je crois que je tape sur YouTube, I Am Kendrick, je vois rien vraiment, je vois un son qui passe. Du coup, je me dis, je le prends. Et je rentre chez moi, et du coup, chaque étape qui augmente, plus je me dis, ok, je me suis juste fait couiller 12 balles, et puis c'est tout. Tu vois. Quand t'enlèves le CD, la photo derrière, c'est clairement le clip de Humble avec les crânes. Sur le CD, c'est une photo de Kendrick et on remonte en plus à Good Kid, Mad City ou au moins To Be Butterfly.
Il est bien dur, hein, l'edit. On vous le montrera, je vous le mettrai en story
à la limite,
quand l'épisode sortira.
De ouf.
Et l'edit, la fan edit est un peu dur.
C'est fait maison, de ouf.
Tu sais qu'il y a pas Tidy derrière. Hein.
Exactement. Et d'ailleurs, le seul label qui est crédité dessus, c'est Egypt Records.
Ok.
On en reviendra pas du tout après parce que j'ai trouvé aucune information. Je spoil dès maintenant.
Ça n'existe pas.
Egypt Records, si ça existe, ils sont bien cachés parce qu'il n'y a rien sur Internet. Mais du coup, il y a quand même à l'intérieur, parce qu'il y a un mini livret de une page avec écrit Also Available, donc aussi disponible, et plein d'albums de vos artistes préférés qui n'existent pas.
D'accord.
On a un album de Dr. Dre qui s'appelle My Story, si jamais vous avez entendu. On a un album de Macklemore qui s'appelle Back to Basics. On a du Lil Wayne, du 50, on a du B.O.B., du Notorious Big, du Eminem.
50, il s'appelle comment l'album ?
L'album de 50, il s'appelle I'm Still Running This.
Donc, ça peut, hein, ça peut. On peut à moitié y croire. Le chemin du roi.
C'est vraiment ça. En fait, t'as l'impression que c'est des gens derrière qui juste créent des trucs. Enfin, quand toi, tu fais un fan album, en fait.
Ouais, c'est ça. Mais en vrai, c'est ça.
Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et
celui de B.O.B., je l'ai déjà vu.
Celui de B.O.B., tu l'as déjà vu.
Je l'ai vu dans un Leclerc, un truc comme ça.
Du coup. Et en gros, donc, pour aller directement au but, c'est un album. Aux États-Unis, on appelle ça bootleg. En France, ça se traduit en contrebande. Donc, c'est juste des compilations de sons dont je crois personne n'a les droits, mais en même temps, si.
Bah oui, quand même, parce que t'exploites les voix.
Mais du coup, pour essayer de comprendre comment ça marchait, parce que je me dis, je vois les sons et tout, je me dis, c'est écrit oui, c'est écrit up, etc. Je mets le CD dans mon ordi, je clique directement sur up, parce que je veux exactement savoir, c'est oui, up de 57. Il n'y a pas d'hésitation, c'est vraiment ce son-là. Et du coup, une des grosses questions qui revenait, c'était comment t'as les droits de faire ça, en fait ? Comment t'as le droit d'imprimer, de faire le CD, de le poster ? Non, mais c'est à la Fnac qui le revendent. Et en fait,
il y avait plusieurs exemplaires de ce même truc.
Exactement. Et encore actuellement, j'y suis allé du coup aujourd'hui, il y a encore ce CD qui est dans les bacs de la Fnac et de l'espace culturel. J'ai fait mes recherches après, j'ai 2-3 réponses, parce que c'est bizarre, mais c'est pas plus poussé que ça. Les réponses, en fait, comme d'hab, c'est se trouve dans les petites lignes. Si tu regardes bien, je crois que c'est sur le livret ou sur le CD, c'est écrit « Tous les droits de ces chansons sont plus ou moins... » Enfin, je traduis un peu, hein, mais c'est pas autorisé de reproduire ce qu'il y a dessus, mais les copyrights ne sont pas vraiment de nous non plus. Il y a un entre-deux qui est trop bizarre.
Okay.
C'est vraiment...
C'est un vide juridique, quoi, en gros.
Je pense qu'on est sur un vide, mais qui est même pas un vide juridique, parce qu'en fait, du coup, de 50 Cent avec Kendrick... c'est le même son, sauf que t'enlèves le premier couplet de 50 Cent. Le son Dose avec SZA.
Bah, c'est ça, le vide juridique. Enfin,
c'est ça.
C'est comme quand tu vas sur, tu sais, il y a des. Comme sur YouTube, ça arrive des fois que tu trouves des morceaux, hein, tu sais, des. Justement, quand il y a des leaks ou des choses comme ça, des morceaux où, tu sais, ils enlèvent une partie ou ils enlèvent la fin.
C'est ça. Et
en fait. Justement, ça ne soit pas strike. En
exactement.
Fait,
et en gros, là, c'est la même chose pour les sons récents. C'est des sons qui sont. Genre, le son avec SZA, en fait, t'as juste pas l'outro, t'as sa mamie qui parle, tu vois.
Ok.
Et quand tu shazames chaque son, parce que c'est ce que j'ai dû faire, parce que pour savoir d'où venaient ces sons, parce que j'en entendais certains, je me suis dit, bon, c'est des sons, ça s'entend qu'ils datent, mais je sais pas c'est quoi, tu les shazames, en fait, tu vois que c'est des sons de 2014, de son premier projet, qui s'appelait Kendrick Lamar Hippie, qui était pas encore sous TDE, et je pense que c'est des albums qui sont pas légaux, qui sont pas sous des copyrights vraiment, mais en même temps, tu sais que c'est du Kendrick, donc... Mmh. À un moment, ils ont dû être copyrightés, tu vois, s'il a réussi à choper les droits sur les prods.
Mais après, ils sont pas sur les. Même les anciens projets comme ça, même officiels, ils sont parfois pas sur les plateformes de streaming. Et c'est justement souvent à cause de. C'est qu'il y a.
Et du coup,
pas exploiter les droits, en fait.
Et je me suis dit, peut-être que c'est les prods, etc. Mais en fait, en remontant sur certaines prods de sons de 2014, il y a du Soundwave, qui est le producteur qui a fait encore plein de sons après pour Kendrick. Donc je me dis, c'est qu'il a dû taffer avec lui à l'époque. Donc pourquoi il n'a pas eu les droits pour ces prods-là, même si c'est des droits de samples, etc. Je pense que Kendrick, actuellement, a la thune pour choper des samples de sons, tu vois. Du coup, c'est assez particulier comment ça, tout ça existe. Et tu retrouves quand même quelques sons sympas, je crois. T'as Oliki aussi, qui a un son de DJ Khaled qui est sur le projet. Et dans les autres sons, du coup, des vieux sons, bon, il y a des sons qui datent de fou. Genre, je t'avais envoyé, normalement...
Moi, j'ai Lack of Better Words.
Alors, Lack of Better Words, c'est encore autre chose. Là, c'est vraiment les tréfonds. Le...
Celui-là, Young Buzzword.
Exactement, Young Buzzword, donc c'est un son qui remonte de fou. J'avais vérifié.
Tu veux en parler avant, on l'écoute tout de suite.
En deux spi, c'est un son, je crois, qui est sorti en 2014. Donc c'est un vieux son de Kendrick et je trouve qu'il y a plutôt bien vieilli pour le coup. Tu m'aurais dit que c'était à l'époque de Untied and Unmastered, je t'y aurais cru, tu vois.
Ok, ok. Vas-y, on écoute ça.
Look, a straight up Compton nigga till I'm 6 feet like Iverson B. Ride or die for mines, it's just me. No side on mines because I don't need niggas switching sides on mines. Childhood friends become enemies. Don't pay them no money, do your mind like Kennedy's. Close curves, good. Young boys world where we make the murder bracket. High short taxes, high by the deadbeat daddies and the mamas who can smoke the rock the fast.
Donc ouais, on est sûr.
2014, ça ?
Je crois. Okay. C'est dans cette période-là, en tout cas. C'est dans tous les vieux sons qui sont pas des leaks ou des sons pas finis, c'est près 2015.
En vrai, il y a la voix un peu qu'il avait dans ces projets-là de l'époque.
Oui, c'est vrai.
C'est ça. C'est plus dans les prods, etc. Je crois que c'était un peu plus récent, mais après, c'est vrai que...
La voix de Good Kid.
C'est ça.
En vrai, c'est ça. Hein.
C'est exactement ça.
C'est ça et Section A.
C'était la période que j'ai préférée. Toujours, même aujourd'hui. Toujours.
Je comprends. Et du coup, l'autre son, par exemple... Ça, c'est le genre de son où je me dis, on est vraiment dans un flou juridique qui est fou, parce que c'est un son qui existe actuellement, qui est sur les plateformes, qui s'appelle Chopsticks de Schoolboy Q et Travis Scott. Et c'est la version qui a dû leaker quelque part, où c'est Kendrick qui fait le refrain. Et je pense qu'en fait, c'était un refrain test, je sais plus c'est quoi le terme exact, mais pour Schoolboy Q.
Ouais, ils ont dû le rec un jour, en fait.
C'est ça.
Les pistes existent, quoi.
C'est ça, mais du coup, tout le reste du son, c'est le son de Chopsticks de Schoolboy Q. Du coup, je me demande comment... juste en changeant le refrain, en mettant le refrain de base de Kendrick, ça peut être vendu, quoi, d'ailleurs. Donc, mais je vous laisse écouter pour avoir la différence pour ceux qui kiffent bien le son de base. On est sur du test.
Non, on est sur gros, tu sais que je suis grave dedans. Et il m'a mis trop bien.
Mais
en fait, c'est marrant parce que vu que nous, là, on est vraiment à l'ère de l'IA où on met des voix sur des sons des autres gens et tout, machin, bah là, j'ai vraiment l'impression d'écouter ça.
Je comprends.
Et ça marche. Hein.
C'est vrai. Ouais. Franchement, il a des top lines qui sont toujours aussi bonnes. Hein.
C'est ça.
Jamais douté là-dessus. Mais après, t'as des sons qui, je crois, c'est Better World sur le projet, qui sont des sons où c'est purement... du leak, et je pense que tu peux même arriver un peu vers la fin, t'entends Kendrick sur du yaourt pur,
okay.
Avec, et c'est t'as SZA qui fait un peu une partie de refrain.
C'est une chute de studio.
C'est une chute, même la prod, hein, je pense c'est une chute de prod, quoi. Elle est pas finie, il y a une boucle juste. C'est intéressant, mais c'est vrai que c'est toujours bizarre, quoi. Yeah,
I wish your fucking wound got more. I wish it's new. I wish you knew what I wish you knew. Yeah. Stuck in a rock in a hard place, hard place, dark place, off in a soft place, sharp place. God. Yeah, bitch, ho, ha, shit, yeah, whoa. Hey, when I say, when I say, like, say, like, on it. Yeah. Stuck in a rock in a hard place.
Donc là, on est vraiment purement sur des trucs pas faits, quoi.
Là, je sais pas si t'entendais, mais quand il fait un peu du yaourt, machin, ouais, ça me faisait grave penser à Childish. Childish,
oui, ouais, en vrai, hein. J'avoue, j'avoue.
C'est fou, t'sais, lui ici, des fois, il y a des moments où, tu sais, dans les... J'entendais ça, tu vois, genre de fou.
Et même à la fin, on entend la prise, tu sais, la prod s'arrête, ouais, et on entend
le casque.
Ouais, on entend ce qui se passe.
Est-ce qu'il y a une version de ce son-là qui existe?
J'ai cherché, en fait.
J'étais dedans, moi.
Ce qui est assez marrant, c'est que quand j'ai entendu ce son-là, j'ai téléchargé, je l'ai mis sur mon Spotify parce que je le trouvais un peu cool. Et quand je l'avais noté pour la première fois, ça me tue qu'il dise ça, j'avais dit, il aurait grave pu marcher sur le dernier projet de chez Gigamino. C'est grave la vibe qui aurait pu marcher sur 3, 15, 20. Et ouais, en vrai, le son est pas si horrible que ça. Juste, ouais, il est pas fini, quoi.
Je le trouvais cool.
Juste, faudrait un autre couplet, faudrait qu'il soit fini, tu vois.
De toute façon, c'est des gens qui sont forts, donc des chutes, tu vois, même des trucs qui sortent pas, ça reste toujours assez quali.
Exactement.
Mais bon, quand si tu juges par contre ce que Kendrick a mis dans ses albums, bah c'est moins marquant.
C'est qu'un son comme ça.
Ça dure que 1,52, mais c'est pas le tube qu'ils ont eu pour Black Panther.
Non, hein, mais tu sens que je pense que c'était fait dans la même période, parce que dans les sonorités, il y a un truc un peu Black Panther 2018 que tu peux retrouver là-dedans. Et en fait, c'est ça. Donc tout le projet, c'est des sons soit qui sont pas chasamables, parce que c'est des sons de 2009. Le premier son que je vous ai fait écouter, d'ailleurs, c'est un son de 2009. Donc ça remonte vraiment de ouf. Et t'as des sons qui sont pas finis, des sons qui sont recoupés, etc. Après avoir écouté tout ça, je me suis dit, faut que j'essaie de trouver d'où ça vient, comment ça s'est créé, etc. Parce que avoir ça, parce qu'un pote te l'a fait, il t'a dit, j'ai trouvé plein de leaks, plein de sons de Kendrick, je t'ai fait un album, c'est cool, je trouve ça faisable, mais que ce soit vendu en magasin, je trouvais ça trop bizarre. Du coup, je tape Egypt Record sur Google. En fait, le premier truc que tu trouves, c'est ce qu'il y a en Égypte, en fait, ce que les gens ont fait en Égypte. Il n'y a pas label qui s'appelle Egypt Records, c'est que des trucs qui n'ont rien à voir. J'ai cherché même les références qu'ils donnent pour les autres albums qu'ils ont fait, il n'y a rien. Du coup, je tourne un peu en rond sur Internet, je vois, il y a forcément un post Reddit qui en parle, parce qu'il y a toujours tout sur Reddit. Le post Reddit dit juste, j'ai trouvé ça, est-ce que c'est un vrai, c'est un faux? Et tout le monde qui dit non, c'est un faux. Une personne qui dit quand même, oh, je l'ai acheté, j'ai trouvé ça bien. Il y a des sons pas finis, mais après, chacun son truc, tu vois. Il y a des avis Fnac, pareil, c'est. En vrai, le film, le projet, comment, il est pas si horrible, etc. Ça annonce du bien pour la suite. Je me demande si les gens ont vraiment... Je me demande s'il y a vraiment des gens qui sont tombés sur l'album en se disant c'est le prochain Kendrick. J'espère pas pour eux.
Ouais.
le niveau serait très bas.
Ah ouais, frère.
Après, souvent, ces albums, ils sont pas mis en avant comme...
Non, en plus,
c'est les trucs que tu trouves dans le bac, tu sais.
Ouais, mais à part sur le site de la Fnac, où t'as quand même une note d'un employé dont je tairai le nom, parce que... Hein, qui met Kendrick toujours à son meilleur, qui tente des nouvelles choses, qui essaye, alors que ça s'entend que c'est des vieux sons, ça s'entend que c'est des sons qui sont pas de lui aussi.
C'est vraiment qui a fait le bootleg, le film.
Mais du coup, je suis allé me déplacer à un espace culturel et je suis allé demander directement, j'aurais fait, comment c'est possible que vous ayez ça, en fait, en vente? Et tout ce qu'elle a pu me donner comme réponse, et je pense que c'était un peu la réponse propre pour vraiment pas se remettre en question, c'est qu'il y a des labels français qui font ça, qui récupèrent, en fait, soit qui font eux-mêmes des bootlegs avec ce qu'ils ont, soit qu'ils se font importer des CD des États-Unis qui sont bootleg là-bas et qu'ils les remettent en vente, en fait, en magasin. Donc on n'a pas.
C'est un délire de. C'est comme de la mixtape, en vrai, comme quand on vendait dans la street avant, quoi.
C'est ça, sauf que là, c'est de manière assez légale et c'est le seul truc dont je n'ai pas encore la réponse. C'est comment est-ce qu'une entreprise comme la Fnac peut accepter de vendre quelque chose qui. Et pas très légal.
Va l'argent, surtout, en vrai.
Complément d'enquête, si vous nous entendez. Élise Lucet, si tu nous entends.
C'est pour toi, ça.
Ça, c'est pour toi, ça.
Va mettre une pression dans la fourmilière.
Ouais, c'est ça. Je vais pas déranger les grands, hein, mais il y a des questions qui sont pas répondues. Moi, c'est ça, le
souci. Où va l'argent?
Nous, on a des questions sans réponse, ici.
Moi, j'ai 12 balles qui sont allées à la Fnac. Il y a une partie qui doit repartir autre part. Je sais pas où.
Frère, c'est ça.
Et du coup, voilà, c'était... C'est un peu ces trucs qui existent, que je trouve trop drôles. Ça fait des années que ça existe, les bootlegs. Je sais que t'en as un de Frank Ocean.
C'est un vinyle de Blonde, mais en soi, c'est que des sons. Et c'est du fan edit.
C'est du fan edit.
C'est vendu comme étant du fan edit.
Mais ça, ouais, ça, c'est pas la même chose.
Ça, ça revient dans le contexte de contrebande, entre guillemets, où c'est pas un vrai
album qui existe. Moi, je l'ai pas eu à la Fnac, en tout cas.
C'est ça.
On me l'a acheté, on me l'a offert, et je pense que c'était sur Internet, et du coup, ouais. Bah là, tu vois, tout est possible.
C'est ça, c'est que, après, j'ai vu, t'as sur Etsy, tu peux faire ton propre album, en limite, envoyer une playlist, je pense, YouTube. La personne te l'imprime, te fait le CD, etc. Donc, tout ça, c'est possible, mais apparemment, du coup, il y a des gens qui sont assez intelligents pour faire en gros avec des trucs qui existent. Parce qu'en plus, évidemment, le CD il est sorti pile au moment où on commençait à savoir sûr qu'il y avait un album de Kendrick qui allait sortir. Donc il y a clairement un moment où quelqu'un s'est dit il y a un truc à faire à ce moment-là. Donc je pense qu'on est juste sur pas une bonne arnaque, mais un peu un terrain un peu glissant. Quoi.
Mais après, tu vois, on parle de la fan edit de Blonde en vinyle. En vrai, bah, il sert quand même de la musique de quelqu'un pour faire de l'oseille. Parce que oui, quand t'achètes le vinyle au Boug, je sais pas si c'était de la revente en mode Vinted, tu vois, ou si c'était.
Fait maison.
Il vient d'où, quoi, le truc de base ouais. Qui l'a fait? Qui l'a vendu?
Bah, ça, après, je pense que
c'est peut-être un pressing qui a été fait par des gens, en fait, pressing perso, tout simplement.
Ouais, en pirate, quoi.
C'est ça. C'est...
En ouais, fait, voilà. tu dois avoir le droit de faire ça. Si c'est pour ton usage à toi,
je et pense,
si
par exemple, genre t'en fais qu'un, et ça, tu, bah, après t'as le droit de le vendre
que,
à quelqu'un.
Et que le truc que tu utilises de base, par exemple, il faut que t'aies le CD quoi, ou le vinyle.
Ouais,
hein,
mais quand t'achètes quelque chose, ils te disent bien, c'est comme les DVD, t'as non, pas non, mais, de copier.
Non, non, je veux dire, la personne qui fait ce truc-là, voilà, c'est ça, mais je veux dire, dans tous les cas, en fait, je pense que c'est pas légal et que. Tu dois pouvoir te faire ça à toi.
Oui, voilà.
Mais qu'en fait, tu peux pas.
T'es pas censé le mettre,
tu vois. Genre, et encore, plus... pour pouvoir te le faire à toi, je pense qu'il faut déjà que t'aies quelque chose. Que par exemple, t'aies acheté le CD. C'est con, mais tu vois. Genre, parce que quand t'achètes le CD, t'as le droit de le graver pour toi, en fait. Si tu veux, si tu veux faire des copies, t'as le droit, en fait. Tu peux faire des copies pour toi, pour ta perso. Voiture, pour machin et tout. Ouais. Mais t'as pas le droit de les distribuer, t'as pas le droit de les revendre, t'as pas le droit de les donner. Donc du coup je pense que ça doit être ça
c'est sur un flou comme ça je pense.
Encore une histoire de flou de toute façon c'est un truc
et puis
shady son truc c'est ça.
Et puis ton vinyle
ça
en plus
ça même pas de lui
et puis le projet Blonde n'est pas en vinyle, il n'est pas sorti en plus en vinyle.
Non,
donc t'as un
mais
truc
enfin, je crois c'est bizarre ce qui me fait me dire que peut-être c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même une édition qui est plus officielle que les autres. Et d'ailleurs bizarre, je l'ai vu, c'était pour fêter je crois la sortie, tu sais, le nombre d'années de sortie de l'album qui était en 2016, du coup.
Ouais.
Drake a mis une story où il prend en photo le vinyle.
D'accord.
Lui, moi, j'ai un poster chez moi de Blonde où il y a écrit... Et de toute façon, en soi, sur Blonde, c'est bizarre parce que sur la cover, il n'y a pas de E à Blonde.
Mm-hmm.
Mais en streaming, genre le titre de l'album, il y a un E.
Ouais.
Tu vois. Moi, sur mon vinyle, qui n'est pas là, qu'on ne peut pas voir là d'ici, mais il n'y a pas de E.
Okay.
Ok.
Et lui, sur la cover du vinyle de Drake, il y a un E, tu vois.
D'accord.
Et je me dis... En vrai, t'es Drake.
T'as la...
je me dis que t'as plus de chances d'avoir eu la bonne version que moi.
Il y a peut-être eu justement des pressings perso juste pour.
Mais le truc, c'est que je sais que c'est comme la tournée de Blonde, ça a été super restreint. Il a dû faire quelques dates au début et je sais qu'il y a des gens qui l'ont vu en concert et je me dis peut-être qu'il y a eu du merch comme ça aussi très restreint. Ouais. Peut-être sur les concerts justement où il y avait des t-shirts inédits, des trucs comme ça.
Ouais, c'est ça.
Franchement, j'aurais tellement kiffé.
Godspeed et Siegfried en live.
Ah là 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 là. Ça va être incroyable.
C'est le gif avec le mec qui s'envole là, c'est tout le temps de la musique.
C'est le cap de. Mais du coup voilà, donc tout ce que je peux pour clôturer sur I Am Kendrick de Kendrick Lamar, l'album qui n'existe pas. C'est le meilleur nom que je puisse donner.
Exactement.
Ne payez pas 12 balles pour ça.
Ne payez pas 12 euros pour cet album. Vraiment, vous pouvez à peu près tout trouver sur YouTube. Réécouter les sons que vous connaissez déjà bien. À part pour Bellowers, en vrai, un peu cool, mais pareil, aller sur YouTube ou aller sur SoundCloud. Mais tout ce que je peux trouver, c'est que sur le CD, c'est écrit, si jamais vous avez des questions, vous pouvez contacter l'équivalent de la SACEM anglaise. Donc si un jour j'ai une DTA que j'ai rien à foutre, je vous promets rien, mais à tout moment,
faire une enquête.
Je pars en vraie enquête, et puis on aura peut-être d'autres réponses, mais pour le moment...
C'est une affaire à suivre.
Exactement.
Alors, donner, hein.
Exactement. Je ne vais pas teaser, hein, mais c'est vrai.
Faudrait écouter
plus
les
ou moins complément d'enquête.
Exactement.
En attendant la réponse à toute cette merde. On a essayé, bon, plus ou moins en vrai, mais on avait cette question en début d'épisode de est-ce que tout le monde peut faire de l'art. Pour pas trop spoiler le film, encore une fois, j'ai l'impression que ça essaye d'y répondre à sa manière. Moi, pourtant, c'est toujours des phrases que moi-même j'ai prononcées, je l'ai même écrit dans un son et tout, de dire tu sais, tout le monde fait du rap, certains devraient pas, ou ce genre de trucs. C'est toujours assez. t'es toujours un peu une phrase de connard,
bah
je
ouais, mais...
parce que en vrai, en vrai, on est tout le monde, tu vois. Qui sommes-nous pour faire un podcast tu vois, pourquoi un jour moi je me suis dit vas-y, je vais faire du rap, je vais le sortir. Au final, je suis tout le monde et on est tous tout le monde. Le truc de, en fait, de juste de dire est-ce que tout le monde a le droit de faire de l'art, c'est un peu une question d'enculé.
C'est
parce
ça.
Parce que de toute façon, tout le monde est personne en fait au début et c'est juste en montrant que t'as vraiment envie de faire de l'art que vas-y, tu vois. Même si le mot art peut être un peu pompeux.
C'est très philo-psycho, très large.
De toute façon, dès qu'on a commencé à parler et qu'on allait faire ça comme thème de podcast, je me suis dit, mais en fait, dans ma tête, je me suis dit oui, non, oui, mais, bim, bam, boum. Ouais. Je voyais mon paragraphe de.
Mais en vrai, c'est ce qu'on s'était dit en off avant de commencer l'épisode, c'est que c'est un oui, forcément.
Oui, mais c'est un
évidemment,
oui, mais...
évidemment que tout le monde ne va pas réussir, c'est évidemment ça. Que machin.
Est-ce que et ce sera bien ou est-ce que ce sera bien fait ou est-ce que ça
et
va
évidemment
marcher.
Évidemment qu'il y a des gens qui
vont profiter.
Qu'il y a des gens qui ont ça en eux quand même plus que les autres, forcément. Il y a des gens qui, on dirait, ils sont nés pour ça, mais. Mais bon, moi, j'ai déjà eu l'expérience de voir des gens très talentueux qui ne travaillent pas assez, par exemple. Et ça, bah, c'est pareil, ça peut être. Bah ouais. On peut se dire que c'est pour toi de faire de l'art que t'es né pour ça.
Et au final,
mais que, en vrai, bah, t'as peut-être pas envie, au final, au fond de toi, machin, donc il y a plein de trucs. De toute façon, regardez ce film, Yannick. Qui répond beaucoup plus simplement que les phrases bateau que je suis en train de sortir à l'instant. Mais bon, voilà, c'était juste pour un peu clôturer sur cette question-là de est-ce qu'on a le droit ou est-ce qu'on peut. Sachez surtout que si vous avez envie, faites-le.
C'est
si
ça.
C'est nul, on vous le dira, j'espère pour vous. Et tout le monde a le droit de s'améliorer. Regardez comme là, on est en train de faire un super épisode de podcast.
Incroyable.
Et sachez qu'on a fait des épisodes test avant de sortir le premier, qui ne sortiront jamais.
Ils seront bien longs, tout ça.
Et on a bien eu raison de les faire parce que forcément que c'était nul. Tu n'as pas de repères, tu sais pas trop comment parler dans le micro, etc. Il n'y a pas de rythme. Donc voilà, c'est juste sans dire le mot art, mais si vous voulez faire quelque chose qui vous donne envie en tout cas de vous réaliser ou qui vous donne l'impression de faire quelque chose qui vous fait kiffer, juste faites-le.
Si vous avez la flemme, juste reprenez des leaks d'autres artistes et faites-vous en minime.
Sinon faites des remixes
ou parlez
des autres, critiquez les autres, ça fait de l'argent
ça,
aussi.
Ça c'est bien.
Ah gars, ça régale. Bon, on arrive sur la fin de l'épisode. Une belle heure déjà passée avec vous, les gars.
Ouais.
Encore une fois.
Très bon moment.
On part sur les voies.
On va avoir les recommandations musique, forcément, pour terminer
carrément,
cet épisode.
Fou.
Qui veut commencer? Moi, je vais clôturer en douceur, mais vous pouvez commencer,
vas-y,
les gars.
Vas-y, tu peux envoyer du coup le son de Joji que je voulais recommander, ouais. Parce que de toute façon, comme ça va...
Pour revenir sur ta chronique.
C'est ça, exactement. Et du coup, bah, j'ai choisi, en fait, le... Je dirais que c'est le premier vrai son de Joji qui a vraiment marché. C'est pas celui qui a le plus marché, mais c'est un des premiers qui a marché. Et où les gens s'en sont dit, bon bah en fait, on a trouvé un vrai artiste en fait, et que voilà, il y a quelque chose.
On suit la transition vraiment à ce moment-là. Quoi.
C'est ça. Et allez voir le clip, parce que en fait, même Joji, il a quelques clips qui sont plutôt intéressants, et surtout, ils sont assez... ils se montrent assez, de manière assez vulnérable, et c'est quand... Ouais. Si vous avez regardé justement des trucs de Fifi, Frank, avant Pink Guy, ouais. C'est un contre-choc qui est énervé, en fait.
Mais oui, surtout, on n'a pas précisé que c'était de la musique super triste.
Oui, c'est de la musique super triste.
Ouais, c'est vraiment à l'opposé de son personnage internet.
Je pense qu'il y a 4 sons un peu joyeux.
C'est ça,
un peu.
Sur 5 projets, quoi.
C'est ça.
5, ouais.
Et pour finir sur Joji, vraiment, si jamais vous ne connaissez pas Joji, je vous conseille de faire sa discographie du début à la fin, parce que son évolution en termes de vocal...
Ouais.
Juste en termes de chant est incroyable.
C'est incroyable.
On parle vraiment de quelqu'un qui
a. Il y a de moins en moins d'autotune et de machin. Là, il y en avait pas mal.
Alors on chuchotait un peu et vers la fin, c'est des envolées.
Alors que Slow Dancing in the Dark, c'est presque lyrique.
Ouais, de fou. Voilà.
Othello.
Bah, on en parlait juste avant, c'était un peu un hasard, mais c'est vrai que c'est un... Je sais pas si j'en aurais fait une recommandation de tête, mais en fait, c'est un son qui revient depuis, je pense, peut-être un mois, je fais peut-être un peu trop, mais autour de un mois.
Ça fait 7 mois qu'il est sorti.
Ouais, donc, ok, ça va. Donc, ça fait, je pense que ça fait bien un mois que j'ai le son en boucle qui tourne sur mes playlists. C'est l'article qui s'appelle Nux.
Nux, ouais.
Non, si. Ok. Sam Rex. Non, alors, et ça revient à ce que je vais, ça revient à ce que je vais dire.
Ça, parce que ça ressemble un peu à Nux.
Parce que okay, Nux, okay, c'est aussi un autre artiste UK qui pète en ce moment. Et en général, la scène UK rap, je la trouve très cool en ce moment précisément. Elle a toujours été très sympa, mais il y a un truc qui se crée.
Je suis d'accord. Dernièrement, j'aime bien ce qui se passe.
C'est ça. Je pourrais pas te décrire exactement, mais Nux qui a fait un son avec,
Larry June. Et sur, il est
on y revient encore. Toujours. Hein, toujours les mêmes blagues.
Mais il est partout. C'est normal.
Ouais, c'est ça.
Et lui, du coup, Numbers. Sam Rex, qui a un son qui s'appelle Backpack, qui est, je saurais pas comment décrire, c'est juste du rap très cool.
C'est ça me rappelle. En vrai, c'est good vibe. Hein. C'est ça. Ça donne envie d'être en été toute l'année.
Exactement.
Quoi.
C'est à l'image de l'attitude que je vais avoir cette année, un truc tranquille, coup, un truc joyeux. UK, c'est... Et c'est UK. She B-A-D, call me D-A-D. Some of my girls come tip, baby. Sometimes I'm loving them slim, baby. One thing they all got, they a freak for me. I love when they all wanna sing for me. Sing for me, yeah, a symphony. Yeah, yo, no more beanies, though, but hey, throwback, man. Back then it was boot cuts, heard like the Ku Klux freaky girl tryna do us. Took L's, had no tutors, you wanted litness, you had to get it right through us. First them tryna move us, stop and search, we saying we just some students. All my exes knew where the food was, rubbing their bellies, touching their fupas. Now my hair grew longer, the cargo's fled, pushed the stop. Ouais, c'est pas prise de tête.
Bien de signer ce son, c'est sûr.
Ouais, c'est mélodique
et cool.
C'est
grave. Non, c'est très très cool. Et... à la limite, une mini roco dans celle-ci qui lie un peu avec Kenry. Dans un de mes sons de mété de cet été, c'est Jesus Who Told You, mais la version Sandrake.
Oui, bah ouais, j'imagine.
Il y a une vidéo YouTube avec Sandrake et c'est le son que j'ai peut-être le plus écouté cet été-là. Donc s'il pouvait sortir le projet Jesus sans Drake en version bootleg, 1290.
C'est dur en vrai, moi je kiffe trop Jesus, c'est trop fort.
C'est trop cool.
Mais
ce couplet Drake,
je pense que deck pour lui, bah ouais, parce qu'il est son feat avec Drake et qu'on n'aime pas son couplet. Quoi.
C'est ce
que
je veux dire. Vraiment. C'est...
Il a pas eu le tube qu'il aurait dû avoir avec Drake.
Ce son-là,
c'est du gâchis.
Ce son-là, ça aurait dû être vraiment le hit de l'année. Et... je sais pas, Drake, il a fait son.
Franchement, je mets 10 secondes du son, juste pour le Dell. Je mets juste ça parce que ça me met bien.
Parce que ce refrain, quoi. Ce refrain, c'est...
Mais du coup, allez écouter le refrain de Drake et voir comment il a tout gâché.
Je cut avant que J.E.S. arrive, mais sachez, vraiment, l'entrée de J.E.S., elle est triomphante. Et en plus, Drake, il arrive, il cut la prod et il fait « Girls black, man, and on the shoulder
». Quand c'est sorti, c'était « Ah, vous verrez, dans une semaine, vous allez kiffer ». Ça fait 2 mois plus que ce sorti. Ouais.
Mais tu sais que pareil, j'y ai cru au truc de « Ouais, vas-y, je sais que je vais finir pareil, mais tu sais... » Mais non, en fait, non, là, j'avoue, non. J'avoue, là, ça n'a pas pris.
Il peut louper, hein. Drake peut louper, faut jamais l'oublier.
Ça arrive, des fois. Moi, je vais finir sur une note de douceur, les gars, je crois bien. Vous savez que je kiffe Little Sims. C'est ma go.
Pour rester dans le UK, toujours.
Pour rester... De toute façon, je vais pas mentir, mais en ce moment, moi, ils me régalent. J'ai l'impression qu'ils ont, ils ont le vent...
S'ils n'avaient pas des loyers à 4K, les 15 mètres carrés, peut-être que je serais à Londres actuellement. Je peux
mais comme on disait, ils ont... Là, ils sont en train de grave capitaliser sur l'attention que le monde leur donne. Là. C'est comme... Le Nigeria pour la musique et la mode et machin, pareil, on leur donne de l'attention et
ils savent la gérer.
Ils savent très bien la gérer et là, dernièrement, ils sont
en vrai, c'est eux, franchement, c'est les Anglais et le Nigeria qui amènent un truc frais en tout cas en worldwide, tu vois, j'ai l'impression.
Sur cette vibe de musique qui est quand même je vais pas dire dansante parce que c'est réducteur, mais tu vois.
Good vibes.
C'est ça, enfin voilà, dans l'idée. Quoi.
C'est moins réducteur ça?
Je trouvais que c'était plus réducteur que...
C'est quoi ta reco du coup, quoi?
Sans transition.
Non, mais moi, ma go aujourd'hui, c'est Clé au sol. Et pourquoi je parlais de Little Sims, c'est que moi, je l'avais découverte en feat avec Little Sims, tout simplement, sur je ne sais plus quel album, mais vous trouverez. Et le son, c'est All Friends, c'est sur son dernier album à Clé au sol. qui s'appelle, excusez-moi, Even. C'est vraiment un nom d'album d'une meuf comme elle, ça lui ressemble, c'est doux, c'est mielleux, et c'est super bien produit, c'est un peu jazzy soul, etc. Et franchement, je sais pas, en ce moment, ça me fait kiffer, ça me régale, j'ai envie d'écouter ça quand je me réveille, quand je fais un peu rien, quand je fais un peu tout ce que je veux. Ça glisse partout dans n'importe quel moment de vie, et on va écouter ça.
You anymore. I'm tired of choosing you over myself. It's sad and it hurts that it is all over. And I hate the fact that it's over.
Voilà, moi j'aime bien les voix, j'aime bien quand ça chante.
C'est bon.
Donc là ça me met super bien. Franchement, le projet, allez écouter.
Ça s'appelle comment le projet, t'as dit?
Even. Ouais. Juste avant de terminer, parce qu'on a parlé des UK et tout, il y a une série forcément, la saison 5 si on prend en compte Summer House, mais la saison 3 si on parle que de Top Boy. Juste, Loco a pas terminé, Othello regarde même pas, je crois.
Il manque juste 2 épisodes.
Parce que c'est encore dans une autre watchlist.
C'est, ouais, c'est... Non mais elle arrive, ça arrive.
Ouais, c'est ça, dans sa watchlist. Ouais.
Moi je dis juste que je l'ai terminé avant-hier. Moi honnêtement, j'ai trouvé ça lourd. C'est pas la meilleure saison.
Okay. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, que c'était pas la meilleure.
Mais moi, j'étais dedans, je l'ai torché en deux.
Et d'ailleurs, c'est marrant que tu parles de ça parce que du coup, il y avait, il y a Little Sims dont tu
parles. Oui, bah, qui
est dedans.
Ouais,
qui
ouais. Joue, okay. Et moi, qui m'a touché,
ouais,
en plus.
Il est crédible, son personnage, ouais. il est touchant.
Elle
joue
grave
et tout,
bien. Et sa relation avec Duchesne et tout ça. Et franchement, non. J'ai grave kiffé.
Une grande actrice, Little Sims, non?
Je sais rien. Après, elle fait des courts-métrages, elle, dans sa promo d'album, dans ses trucs, tu sais, elle joue un peu.
Mais en tout cas, ouais, à aucun moment tu te dis, quand tu la vois dans la série, à aucun moment tu te dis, ah tiens, c'est une musicienne, enfin c'est une chanteuse ou machin qui vient faire de l'acting, tu vois.
Après, Duchesne et Sully, c'est des rappeurs, hein, de base.
Okay, c'est vrai,
c'est des rappeurs old school anglais, en fait, grave, de la même époque.
Alors que, à la limite, Sully, je le vois, mais Duchesne, je le vois pas.
Je vais te montrer après, tu vas voir, il y a des vidéos dedans, en train de rapper et tout, bref, c'est trop lourd.
Okay.
Mais ouais, en tout cas, Top Boy, vraiment, moi, je veux juste vous dire, pour que vous le sachiez, c'est que j'ai kiffé la saison 3 quand même, pas la meilleure, mais ça m'a régalé, okay. Et je pense que c'est la dernière, j'ai pas l'info.
C'est la dernière.
Ok.
Et par contre,
moi je suis corda avec
la fin. Ok.
Et comment ça
se passe? Et par contre, moi, pour moi, c'est la saison 5, parce que ça vaut quand même le coup de regarder Top Boy Summer House.
Oui, bien sûr, si vous avez regardé que Top Boy et pas Top Boy Summer House, quand il n'y avait pas encore l'argent de Drake dans la production de la série et pas Netflix, faut quand même le faire parce qu'on comprend des choses.
Puis il y a ce petit feeling de. Excuse-moi.
Ouais. Et non, mais en fait, il y a des histoires sous-jacentes entre certains persos dont on parle que dans Summer House. Tu vois, ils en parlent pas clairement après, alors que quand t'as Thema Summer House, tu sais pourquoi il y a déjà des histoires dans la saison 1 de Top Boy, vraiment.
Parce que
Top
moi,
Boy.
Quand on m'a dit qu'on peut commencer direct à Top Boy classique, Netflix, j'ai trouvé ça bizarre, en fait. Genre, je me suis dit, mais ça me
non, mais je suis, c'est pas vrai, en vrai. Ouais, franchement, je suis pas corda.
Mais voilà, et puis même, si vous aimez les séries british,
il y a ce côté de
séries british fait à la main, un peu,
machin.
Je trouve un peu à la... Enfin, c'est ce genre de vibe qu'on retrouvait dans des séries comme Misfits, première saison de Doctor Who, des trucs comme ça, où en gros, c'est british... Enfin, il y a une vibe particulière, et moi, je sais pas, je trouve ça fonctionnait.
Ok.
À fond. Les gars, c'est la fin de cet épisode. Donc allez voir Yannick, regardez Top Boy Summer House, allez écouter Joji.
N'achetez pas. I am Kendrick de Kendrick Lamar.
À 12 balles.
C'est la première. C'est pas bien.
C'est la première non-recommandation de meilleur réseau.
Ah, gars, vraiment une croix carrément. Mais voilà, les gars, encore un plaisir. J'espère que vous avez kiffé. Moi, j'ai kiffé faire ce format un peu différent, en tout cas un peu plus segmenté avec vos chroniques
c'est
et
bien,
tout.
Ouais. C'était cool.
Je pense qu'on recommencera. J'espère que vous avez kiffé vous. Passez une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine tout le monde. Meilleure radio.